Bienvenue dans l'émission de Résonance Sonore, de retour des Jeux. Nous accueillons dans les studios nos athlètes d'Occitanie après leur grande expérience des Jeux de Paris. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Toupé. Bonjour.
Bonjour Agnès.
Athlète de para-badminton. Alors, en un mot, si vous deviez décrire l'ambiance de ces Jeux à Paris, ça serait quoi ?
En un mot, alors moi ce qui me vient, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que c'était incroyable. Ça c'était en un mot.
Donc incroyable, une dinguerie. Quand vous êtes arrivé déjà au village olympique, comment ça s'est passé ? Quelles sont les premières impressions ?
Eh ben, en fait, l'ambiance, elle a commencé déjà dans le village, c'est-à-dire que, alors je sais pas si comment ils sont formés, mais les bénévoles, les organisateurs de Paris 2024, ils mettent un point d'honneur à nous accueillir au village. Donc, il y a presque une lettre d'honneur déjà qui nous accompagne jusqu'au bâtiment France. Et à l'arrivée du bâtiment France, on a aussi l'accueil de la délégation qui est déjà sur place. Et voilà, ouais, c'est. On est accueilli en fanfare et puis on sent qu'on rentre là dans le vif du sujet quoi à ce moment-là.
Et ça a dû être un petit peu quand même antinomique par rapport aux Jeux de Tokyo parce que vous avez vos premiers Jeux paralympiques c'était à Tokyo, donc là c'était clos etc. C'est complètement différent.
Ah ben c'est ça, c'est exactement ça. Et à Tokyo, il y a 0% d'humanité ou presque. Alors on était très bien accueillis, hein, c'est pas le problème. Mais les Jeux Covid, même entre athlètes, on se regarde de loin, on n'ose pas venir se parler. C'est pas évident. On a quand même là le stress et un petit peu l'angoisse, même si on avait travaillé pour l'éviter, mais de choper le Covid, quoi, hein, tout simplement, et puis de rester cloisonné pendant 15 jours, donc c'était pas rien. Donc ouais, c'était beaucoup d'angoisse et pas vraiment d'humanité, contrairement à Paris où, là, tout l'inverse, quoi, hein, on a eu, ça donnait l'impression qu'on avait un rendez-vous loupé et que tout le monde avait à cœur que ce soit une belle fête, et en plus de la performance et de la préparation, bien sûr.
Alors, vous allez jouer directement le premier jour des Jeux, hein, le 29 août. Du coup, bon, je suis curieuse quand même, il y avait la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous êtes allé faire un petit tour ou genre, c'est un peu juste pas possible parce qu'on se prépare focus sur les matchs qui vont se dérouler le lendemain ?
En effet, pour nous, c'était pas possible. En plus, on jouait vraiment le lendemain matin à 10h. Donc, voilà, une cérémonie qui prend beaucoup de jus, déjà, moralement, mentalement, en plus de l'aspect physique et du sommeil. Donc, c'était impossible pour nous d'y aller. On a pu regarder, une petite demi-heure, une heure à la télé. Mais c'est tout pour aller se préparer pour le match du lendemain et puis rentrer dans une bulle.
Et oui, parce que la préparation, ça se prépare plusieurs années en avance. Et je suis allée vous rencontrer au Crêpes de Toulouse à ce moment-là, quand vous prépariez justement ces Jeux de Paris. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit peu, on replonge dans votre portrait sonore. Et puis après, on en reparle.
Très bien.
Bon, alors du coup, on va parler un petit peu en attendant que le problème technique se déroule. C'est les joies du direct. On parlait que la préparation, du coup, c'est longtemps à l'avance. Une préparation, donc c'est plusieurs années à l'avance. Vous avez fini les Jeux de Tokyo, vous préparez déjà pour les Jeux de Paris. C'est ça, David ?
C'est à peu près ça. Alors, il y a toujours l'année post-jeu qui permet aussi de faire un bon bilan et puis de se ressourcer, hein, parce que repartir comme ça, la tête dans le guidon, c'est pas la meilleure stratégie parce que faut justement encaisser, savoir ce qui a marché, ce qui a pas fonctionné. La particularité c'est que là avec les Jeux à Tokyo qui étaient décalés d'un an à cause du Covid, on n'avait plus que 3 ans pour préparer Paris. Donc là on s'est plongé très vite dans l'aventure de Paris, on a vite compris que c'était en plus à la maison et qu'il y avait des attentes. Et en même temps des moyens aussi supplémentaires qui nous ont permis de bien se préparer bien en amont. Et puis nous, on a dans le para-badminton la particularité d'avoir une qualification qui est très longue. Elle commence en mars 2023. voilà, un an et demi avant les Jeux. Et pendant un an, bah, y a 12 tournois à faire, un par mois, et puis il faut aller chercher un maximum de points à chaque fois. Donc ouais, la prépa, elle est très très longue. La course est très serrée également. Ils prennent que les 6 meilleures paires mondiales. Donc, voilà, faut pas se rater sur une année entière. Et puis, la dernière ligne droite, évidemment, se prépare un peu plus sur l'été, quoi.
Voilà, parce que déjà, il faut réussir à se qualifier, en fait. La course aux Jeux, c'est déjà la qualification. Pour Tokyo, vous êtes blessé juste avant vos matchs. Comment on fait justement pour arriver au top et essayer à tout prix d'éviter la blessure ? Parce que forcément, on va au max de ses possibilités et finalement, la ligne, elle est tenue entre la blessure et le max de ses possibilités.
Oui, tout à fait. Moi, c'était vraiment l'objectif principal. C'était pour moi même un objectif de moyen, c'est-à-dire arriver en forme le jour J à Paris. J'ai pu faire justement un peu le bilan entre le physique, le mental, hein, également qu'un poids important sur ce que peut faire le corps et comment il peut encaisser et comment il transforme parfois aussi tout ça en douleur. J'ai eu 3 ans pour le faire. Je me suis plutôt bien préparé, bien entouré d'un staff accompagné de la fédération, de la NS, là, du CREPS et les préparateurs physiques qui m'ont fait une bonne prépa. Mais jusqu'au bout, c'est pas que j'étais pas serein, mais en tout cas, je faisais attention, très attention à ça. Et puis, faut trouver l'équilibre entre le volume, l'intensité, la récupération. Et c'était pas simple. Et puis, moi, j'ai un dos qui était un petit peu fragile de par mon handicap, mon accident. Et pendant la course des Jeux, je me suis fait opérer du dos. Donc, on m'a enlevé tout le matériel que j'avais depuis 20 ans dans le dos. Donc, il a fallu rebondir après tout ça à moins d'un an et demi des Jeux. Je suis plutôt content de cette partie-là.
Alors, je vous propose justement d'écouter cette préparation au Krebs de Toulouse quand je vous ai rencontré lors de votre entraînement. Objectif 2024, la voix des athlètes. Une série de portraits sonores réalisés par Agnès Gontier, de Résonance Sonore.
Come on. Allez, d'avant. Allez.
Je crois que c'est un sport qui m'a toujours plu depuis mon plus jeune âge par son côté ludique, le fait que ce soit un sport explosif, même sur un plan cardio. Il y a des accélérations et des moments un peu plus calmes, côté vitesse, coordination, me plaisent énormément. Je m'appelle David Toupé, je suis joueur de para-badminton, j'ai 46 ans et j'ai 3 enfants.
Dave.
Moi j'ai commencé le badminton à l'âge de 10 ans, j'ai découvert plutôt par hasard dans ma ville, petit village là, à Saint-Malo-le-Grand ou en Bretagne, il n'y a pas 10 000 sports et puis comme je suis asthmatique, j'ai pas le droit de faire de foot comme mes copains et en sport en salle, il y a le badminton et le judo, je fais les deux.
Stop. Je sais pas si t'as bien sûr que t'as vu, t'as entendu en tout cas, on n'est pas du tout sur les mêmes sons, frappe fond de court, à plat, frappe amorti, à plat, frappe amorti où on va couper le volant, où c'est un slice, pouf. Donc sur le volant, c'est pas du tout le... Quand je fais une trajectoire bing bien à plat, vas-y Max, s'il te plaît, tu peux m'envoyer des volants?
Oui.
Vas-y, 2, 3. Là, je suis sur une frappe très à plat. Là aussi, et vas-y. Et là, slicer. Tu vois, le son, fou. Du coup, si j'entends pas, forcément, il y a une connexion qui fait... cerveau-main qui va faire que je vais partir en arrière. Ça, c'est le son. Par contre, nous, on est avant tout sur une prise d'info visuelle. C'est-à-dire que moi, je vais regarder ce que son corps fait. Bah, s'il fait ça, s'il part fort, je vais avoir tendance à partir. S'il part fort et s'il ralentit au dernier moment, hop, je vais aller devant. Et après, il y a un effet le son. Si j'entends « vouf », ça va... Enfin, il y a forcément une aide pour aller vers le volant, quoi. Comment ? Ouais. Ouais.
Clairement, je me sens vivant hein, quand ça va vite, quand faut... Enfin... J'ai une carrière de joueur valide, hein, donc j'étais très explosif, même au niveau des jambes, et j'avais une détente sèche qui était importante, parce que je suis un petit gabarit. J'avais un jeu plutôt aérien, et ça me plaisait énormément.
Ah, allez.
Et puis même là, ça procure ouais, tout ce qui est adrénaline et puis dopamine, c'est plaisant. Donc je crois qu'après, c'est le sport de façon assez générale. Je suis amoureux du sport, donc c'est le badminton qui me procure ces émotions. Mais ça aurait pu être un autre sport, je pense. C'est une histoire de copains aussi. Hein. Les copains du badminton que j'ai rencontrés à 10 ans, je les ai encore. L'aventure humaine m'a fait aimer ce sport aussi. Je pense un joueur qui joue beaucoup à l'instinct quand même. Ça fonctionne quand on dépose le cerveau. C'est de réussir justement à jouer souvent par automatisme.
Allez, là.
Il y a quand même un aspect très tactique hein, dans notre sport. On est face à un adversaire, donc on doit répondre à ce qu'il fait. Il y a au moment de la frappe être sur le moment présent et puis au moment où lui, l'adversaire va frapper, être dans l'anticipation et dans la prise d'information. À ça, il faut rajouter la pression du résultat aussi, mine de rien. Ça, c'est un peu plus entre chaque point, les moments off, avant de servir, les moments un peu posés. Et là, c'est plutôt gestion des émotions, quoi.
C'est mieux. Je parle pour moi. Ouais, faut que j'arrive à me recentrer là. Quand je fais trop de fautes là comme ça.
Mais c'est rigolo parce que autant on l'entend quand même extérieurement, qu'avec le casque, on a l'impression de le vivre en étant le fauteuil.
À l'intérieur,
quoi.
C'est
en étant
ça, c'est
vraiment
ça,
le fauteuil à l'intérieur du fauteuil, c'est incroyable. Alors c'est rigolo parce que pour déconner, souvent je suis pas, hein. Je fais bon allez, ça va bien se passer, on y va, tu me lâches pas. Et ouais parce que bon, donc autant j'ai 6 raquettes, donc elles se tapent la bourre entre elles et elles me le rendent bien. Autant le fauteuil j'en ai qu'un, parce que je suis bifan. Et avec ce fauteuil-là, ce que les ingénieurs ont pu réussir à faire, c'est que j'ai un fauteuil qui est tout réglable, je peux le désosser, mais vraiment, et puis au bout de 5 ans maintenant, je connais, donc je démonte toutes les pièces du fauteuil, il n'y a que la base qui reste, pour pouvoir faire plein d'essais et régler et optimiser les réglages de mon fauteuil, tout en ayant le poids d'un fauteuil tout soudé, quoi. Voilà, parce que y a des pièces carbone, parce que le design a fait que les pièces sont placées à tel endroit et je peux les déplacer facilement. Enfin, et donc ça c'est top parce que dans le commerce ça n'existe pas, un fauteuil comme ça.
On va ramasser les volants là.
Je suis champion du monde en 2013 en double, plusieurs fois champion d'Europe et plusieurs fois champion de France également. Plus de 20 titres internationaux avec les championnats de France.
Donc il y a la petite valise de volant.
Ouais, la petite valise de, je crois... Elle peut contenir à peu près 400 volants, je crois.
400-500 volants. Et ça, c'est des volants d'entraînement, donc pour faire de la répétition. Et voilà, donc là, ouais, quand on bosse en multivolant, ouais, si on passe 3 valises dans la journée, dans l'entraînement, c'est pas 1500 volants, 1400, 1002 volants, c'est pas mal. Moi j'y vais face à mon mur. Et ben ça, c'est un peu du travail à l'ancienne, mais tout ce travail là en fait ça permet d'avoir un volant qui revient sans trop savoir dans quelle direction et de travailler la main en fait. Donc franchement Max, je t'encourage à en faire ça. Pour travailler la maniabilité de la main.
Mes points forts, je dirais que c'est cette explosivité que je peux avoir et la technique. Ça, c'est sur le plan balistique, quoi. Ensuite, je lâche rien quand même sur un volant, sur un terrain. Je pense qu'être quelqu'un de combatif sur le court. Si on reste sur le mental et le point faible, c'est plutôt la gestion des émotions. On a beau avoir un parcours, une expérience, une avancée dans l'âge. La gestion des émotions, c'est pas simple. Et puis il y a le physique, très clairement. Moi aujourd'hui je rivalise dans ma catégorie, notamment avec des joueurs qui sont plus costauds, plus grands, mieux gainés au niveau des abdos parce qu'une paralysie qui est assez haute. Donc c'est clairement ce qui me fait le plus défaut et c'est mon gros point faible par rapport à mes adversaires.
Pour parler de la planification après la saison.
Comme par hasard, ça tombe au moment où on doit reprendre. Ouais. On regrette un peu de récup en plus.
Ça fait partie aussi de tout ce qui est orga. Je gère tout seul tout ce qui est orga, planification et tout. Donc ça, on essaie de voir ça de temps en temps en visio avec les entraîneurs.
Quand j'ai eu mon accident en 2003, accident de ski, j'avais pas l'intention de refaire du badminton, j'avais eu une carrière valide et puis au contraire, amoureux de sport, j'avais l'intention de faire d'autres sports. Et puis en centre de rééducation, j'ai vu des joueurs taper dans un volant avec un fauteuil pas adapté, enfin je les ai pris pour des fous.
6, allez, on se le pousse à 8, allez.
Et puis en me renseignant, j'ai vu que le badminton était développé dans plein d'autres pays. Sauf en France, mais il y avait déjà une structure internationale avec un championnat du monde, un championnat d'Europe. Quand j'ai vu ça, je suis allé voir la fédération, la direction technique nationale que je connaissais. J'étais en tant que kiné, j'étais resté dans le staff de l'équipe de France. On m'a dit, bingo, va te déplacer sur un tournoi pour voir qu'il en est. Et l'aventure a commencé comme ça en 2004, avec l'objectif d'importer les règles sur le sol français, mais avec une fédération française qui, à ce moment-là, n'était pas prête à développer le sport et à mettre les moyens pour développer le badminton pour le public handi. Et après 10 ans de bénévolat, on a quand même apporté des règles dans les clubs. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, il y a une petite émulation qui s'est faite, une création d'une asso de joueurs, pouvoir s'organiser, puis faire un peu plus de bruit, et puis pour dire qu'on était là et qu'il y avait des choses à faire. Plus beau souvenir, moi j'en ai plusieurs, hein. C'est souvent des souvenirs collectifs, quoi. Mon premier titre de champion d'Europe, mon premier titre majeur en fauteuil, a de l'importance parce qu'il est partagé aussi avec mes proches, la famille vraiment très proche, qui me suit, qui y croit, alors que le badminton à ce moment-là n'est pas du tout paralympique, enfin on est loin de plein de choses.
Quoi ? C'est un truc de bipède ça aussi.
J'ai ce souvenir aussi d'une photo en fait de l'équipe de France au championnat du monde en 2015, où il y a autant de joueurs debout que de joueurs en fauteuil. Toutes les catégories sont représentées, garçons, filles, un staff technique. Enfin, cette photo en fait représente l'aboutissement aussi de 10 ans de bénévolat, où 10 ans avant, je suis tout seul à porter le drapeau français sur les compètes pour notamment essayer de développer mon sport, quoi, pour le public handi. Et là, ouais, cette photo a du sens pour moi. Et puis le titre de champion du monde qui arrive derrière, aussi, je sens une émulation après ce titre-là qui est important, quoi. C'est le démarrage d'une professionnalisation du parabad aussi et de l'entrée au jeu. Donc, voilà.
Bien joué! Allez!
Paris, ça représente des jeux avec du public. Clairement, moi, d'avoir fait Tokyo, déjà, c'était dans mon parcours, c'était exceptionnel parce que c'est la seule compétition qui manquait, parcours à la fois valide et handisport.
Il était dur à contrôler celui-là. Allez!
Voilà, qui est tous les 4 ans, qui met la lumière sur notre sport, mais pas que, en fait, qui est complètement à part de tout ce que j'ai pu vivre avant, quoi, y compris des grands championnats du monde. En plus, moi, à Tokyo, je me blesse quelques jours avant de rentrer sur le terrain, plus le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, enfin, tout ça, moi, ça m'a donné juste envie d'y retourner. Donc, en plus, à la maison, ça arrive une fois tous les 100 ans, donc on a une chance incroyable.
Il craque. Ok. Comment ? 15 partout. On finit là-dessus ?
C'était Au volant avec David Toupé. Une création sonore d'Agnès Montier, mixée par Sofia Riboloff, Midim Studio. Avec l'aide de la DRAC Occitanie dans le cadre des Olympiades culturelles. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr. Alors, je vous le rappelle, on est dans les studios avec dans l'émission Résonance Sonore de Retour au jeu. Donc, j'ai avec moi David Toupé. On vient de se replonger dans ces séances d'entraînement. Voilà, ça vous a ramené un petit peu avant les jeux, là ?
Oui, complètement. Voilà, ça, après quelques semaines de repos, là, après les jeux, là, ça pique un peu là, de m'entendre jouer et être à fond sur un terrain. Voilà, et puis, ça donne envie d'y retourner aussi.
Parce que là, vous n'avez pas refait là, depuis la fin des jeux ?
Non, j'ai pas repris la raquette et voilà, on remet tout à plat.
Alors, on est là pour parler un petit peu de cette compétition qui a commencé pour vous le 29 août. Voilà, donc là, c'était un jour un peu chargé parce que vous aviez 3 matchs, c'est ça ?
Deux. Voilà, j'ai eu 2 matchs par jour pendant 3 jours.
2 matchs par jour pendant 3 jours, d'accord. Et du coup, c'était en simple et en double.
Tout à fait. Ouais.
Donc en simple, ça veut dire vous êtes tout seul face à un adversaire et en double, vous êtes 2 contre 2.
Voilà, et c'est du double homme. Yeah.
Et donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces matchs ? Vous avez commencé en simple, je crois ?
Non, j'ai commencé en double. C'est assez atypique d'ailleurs. En général, dans tous les tournois, on commence d'abord par le simple et puis on enchaîne avec le double. Là, voilà, le format des jeux faisait qu'on avait, j'avais le simple le matin et le double le matin et le simple sur la session de la soirée, quoi.
Donc vous avez commencé contre les Japonais, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors, les Japonais, vous les connaissiez ou pas du tout ?
Alors, pas du tout, c'est-à-dire qu'on a eu la surprise 2 mois avant les Jeux d'avoir une partie du règlement qu'on n'avait pas trop vu venir. C'est-à-dire que pour les Jeux, ce sont les 6 meilleures paires mondiales qui sont qualifiées au classement de la course de qualification, la course paralympique. Et si, alors c'est cette règle qu'on ne connaissait pas, mais si en fait 2 joueurs sont qualifiés par le simple du même pays, L'organisation peut, la Fédération internationale peut les inviter à s'associer pour pouvoir faire un double. Et en effet, il y a eu le cas pour une paire japonaise et une paire coréenne. Et donc, les deux ont accepté l'invitation, forcément. Et une paire qu'on savait costaud. Et par contre, malheureusement, moi je regrette un peu les quitter à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne les a pas vus du tout de sur le circuit et donc on les a découverts, on a joué pour la première fois contre eux au jeu quoi.
Et oui, parce que les découvrir avant sur le circuit, ça permet un peu de se préparer, de savoir comment ils jouent, comment faire sa tactique, c'est ça ? Du coup, vous avez un peu l'impression d'être pris de court ?
Un petit peu, oui. C'est-à-dire que normalement, il fallait un minimum de 3 tournois pour se qualifier pour ceux qui passaient par le classement. Et là, c'est vrai que le fait de pas les connaître, on connaît leur valeur en simple. Et il y a un des deux joueurs, les deux joueurs d'ailleurs étaient des très bons joueurs de double, mais pas ensemble, pas en jouant ensemble. Donc c'est vrai que tactiquement, eux avaient cette connaissance et pouvaient faire de l'analyse vidéo sur nous, et l'inverse n'était pas le cas. Donc, c'est pas tout a pas tout s'est pas joué là-dessus, mais
après vous êtes bien défendu tout de même.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est. Alors, on fait un très très bon match. Hein. Moi, je suis ravi du niveau de jeu qu'on a pu déployer sur à Paris, parce que le niveau était juste incroyable et on a pu rivaliser contre tout le monde. Mais ça passe pas. 22-20 en troisième set sur ce premier match, ça pique encore.
Du coup, en fait, ça c'était votre premier match de la journée. Après, vous jouez en simple, c'est ça? Et là, c'est contre le Chinois, je crois.
Contre le Chinois, tout à fait. Alors, en simple, moi, j'avais deux. C'était une poule de trois. Disons que mes objectifs en simple étaient vraiment pour moi de prendre plaisir, de prendre tout ce que je pouvais comme repère. Mes objectifs de médaille, de résultat étaient plutôt en double. Je suis plutôt un joueur de double. Et puis en simple, un peu ce que j'expliquais dans le reportage, c'est-à-dire que c'est compliqué pour moi de rivaliser. J'ai le handicap le plus touché, le plus haut, le déficit musculaire le plus important de toutes les catégories du para-badminton. De rivaliser avec des gaillards et physiquement pour moi le simple c'était un peu plus compliqué. C'était déjà une belle perf d'être là sur les jeux, mais satisfait de mes matchs aussi mais c'est vrai que contre le Chinois c'était je suis sur le terrain longtemps mais à l'arrivée je perds en 2-7 quoi.
Donc du coup après c'est vos deux matchs suivants, c'est le 30, hein, c'est le lendemain, c'est toujours un le matin, un le soir ou vous en avez fait c'est ça.
Ouais, pour moi c'était ça. Ouais.
Et du coup en double là vous affrontez les Coréens, mais en fait vous avez affronté deux fois les Coréens avec deux équipes différentes. C'est un sport qui est très répandu là-bas.
Oui, tout à fait. Nous, on a l'armada asiatique, hein, clairement. On a Chine, Japon, Corée, qui sont incroyablement consistants, forts, et parce que c'est une culture qu'ils ont réussi vraiment à transférer sur la pratique fauteuil. Et ils ont mis en place des moyens qui leur permettent d'avoir trois bonnes paires, alors deux très bonnes paires, par pays, et puis ils peuvent même faire une troisième paire très fort, donc ça leur permet de s'entraîner entre eux c'est sûr que dans les ils ont cette possibilité, cette capacité de au quotidien de pouvoir s'entraîner les uns contre les autres et d'avoir un niveau de jeu qui est exceptionnel.
Et donc là c'est du coup affronter. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que je ne sais pas.
il y a encore 8 mois, on les regardait en se disant que c'était vraiment très très fort et qu'on n'était pas encore capable de les battre. Et puis il y a eu quelques déclics. Il y a eu les championnats du monde. Il y a eu voilà quelques matchs où on les a accrochés et puis on a pris confiance dans notre niveau de jeu, on s'est vu progresser et clairement oui, il y a 6 mois on a eu un déclic et on a compris qu'on était capable de battre tout le monde et tous les matchs sont accrochés contre les numéro 1 mondiaux, les Coréens, on perd en 3-7 également. Donc on fait vraiment jeu égal, mais lorsqu'on arrive dans ce qu'on appelle le money time, et que le jeu se resserre un peu, ils ont plus d'expérience à ce niveau-là, ils ont plus d'expérience à jouer ces points très serrés parce qu'ils le vivent à l'entraînement tous les jours. Donc il y a cette opposition qui nous manque au quotidien pour pouvoir vraiment vivre ces matchs et gagner ces matchs.
Quand vous dites qu'il y a cette opposition au quotidien qui nous manque en France, ça veut dire quoi? C'est que vous n'avez pas assez de joueurs para-badminton en France du même niveau pour vous entraîner et vous relancer le volant et jouer ces points-là un peu au quotidien, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ce que j'expliquais sur notamment ces 3 pays, mais bon, on pourrait en citer quelques-uns en Asie, ils ont... par catégorie, 4 à 5 joueurs qui font de l'international et à haut niveau. Et nous, en France, on est 2. Il y a un troisième joueur qui de temps en temps est là et sert un peu de sparring, d'entraînement et qui est à Annecy également, parce que mon partenaire en plus est à Annecy. C'est un peu la particularité qu'on est. C'est-à-dire qu'on est les 2 meilleurs joueurs en France, mais moi je suis dans les Pyrénées sur Toulouse et lui est sur Annecy. Donc c'est pas simple de s'entraîner ensemble. Et en effet, en face, le niveau de jeu en France n'est pas encore pas suffisant pour pouvoir s'entraîner.
Alors comment vous gérez pendant la compétition? Parce que du coup, donc vos matchs, vous accrochez mais vous les perdez. Comment on gère une compétition comme ça où on sait qu'on arrive à accrocher mais on ne gagne pas? Est-ce que c'est frustrant? Comment vous l'avez vécu?
Oui, c'est très frustrant. C'est beaucoup de déception en sortant d'un match où on perd, notamment le premier, où on perd 22-20. On sait que ce match-là, on le maîtrise dans le premier set. On fait pas beaucoup d'erreurs tactiques, mais à ce niveau-là, ça pardonne pas et c'est des points qu'on n'arrive pas à récupérer derrière, mais on lâche rien. Il y avait un public incroyable et une ambiance dingue qui nous ont permis de justement nous surpasser tout. Donc ouais, on a envie de gagner ce match-là. Donc mais on peut pas non plus se laisser abattre parce que on enchaîne tout de suite. Moi, mon partenaire, le lendemain, il avait 3 matchs. Donc c'est sûr que cet enchaînement nous permet pas de faire de digérer et de rebondir en reconstruisant quelque chose. Bon, faut être très réactif et puis faut réussir à switcher. Et bon, ça c'est un peu la particularité aussi de notre sport et du sport de haut niveau en général. Mais voilà, il y a l'enchaînement. Bon, la déception, elle est sur aussi. Le match d'après où on sait qu'on a plus les cartes en main, quoi. Il y a les Japonais qui créent la surprise en battant les Coréens et qui pratiquement nous ferment la porte à la demi-finale. Donc, le premier match revient dans la tête en boucle pendant un long moment sur ces jeux. Ouais.
Parce que si vous l'aviez eu ce premier match, comment ça aurait rebattu les cartes?
Disons que il y avait derrière un match pour pouvoir sortir contre une des 2 paires coréennes. Donc, c'était l'objectif, c'était de pouvoir jouer ce dernier match de poule contre les Coréens et puis pour les battre et sortir en poule et sortir en demi-finale. Donc voilà, ça on n'a pas pu parce que les Japonais ont créé aussi la surprise en battant les Coréens. Donc ils ont réussi à développer aussi un niveau de jeu où ils avaient pas de pression, où ils ont créé la surprise clairement, quoi. Donc il y avait cette frustration, cette déception dès le lendemain, quoi.
Et donc en simple, vous avez joué aussi contre l'Allemand?
Oui.
Et ça, vous le connaissez bien, parce que vous avez joué auparavant ensemble, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est mon meilleur ennemi sur le circuit. On se connaît très très bien. On se rencontre en finale des Jeux européens, des championnats d'Europe depuis 10 ans. Il est numéro 1 européen. Moi, je suis derrière. Numéro 2, je ne l'ai pas battu souvent, mais... Mais c'était à chaque fois des gros combats. Bon, lui, clairement, hein, il est dans ma catégorie, mais il a physiquement, il a plein de capacités au niveau des abdos. Il fait 2 mètres. Donc, c'est un gros guerrier. Et c'est à chaque fois, ce sont des matchs physiquement qui sont éprouvants. Et puis, même mentalement, parce que voilà, c'est pas simple de jouer.
Il lâche rien, quoi.
Il lâche rien, et puis, il a des stratégies qui sont pas simples à gérer. Et puis, bon, il joue beaucoup avec l'arbitre. Donc, c'est à chaque fois un casse-tête pour pouvoir rester focus sur son jeu, et puis sans dégoupiller, quoi. Donc, il y a un vrai combat mental également sur ce type de match, quoi.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et après on revient encore sur ces jeux avec David Toupé. Alors, on est toujours en compagnie de David Toupé, de retour au jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement de ces jeux-là et de ces compétitions, de ces matchs? Donc j'imagine que ça a été difficile, hein, parce que vous y allez pour décrocher une médaille et vous revenez en n'ayant pas réussi à avoir une victoire sur des matchs. Donc, j'imagine que ce n'est pas facile.
Oui, tout à fait. C'est un mélange de déception, encore une fois. Bien sûr, là, il y a la tristesse du résultat, parce que quand on voit en plus les copains qui vivent des matchs pour aller chercher une médaille, c'est juste incroyable. Et notamment à la maison, devant son public, sa famille. Enfin, moi, toute ma famille, ma compagne, mes enfants, on pris conscience aussi de ce que je faisais, donc pour moi c'était très important, et bien sûr qu'on aurait voulu ramener déjà une victoire. Et puis maintenant on est dans un top 6 mondial, encore une fois on n'était pas favori, on était plutôt outsider en double, ça on le savait, mais on peut pas vraiment avoir de regrets sur cette compétition. Donc on a beaucoup de fierté aussi d'avoir produit ce niveau de jeu sur tous les sets. On a déjà, sur les autres tournois, on avait des trous d'air parfois sur un match entier, même si on le gagnait. Parfois il y avait un set où on pouvait passer à travers. Là, très sincèrement, sur mes 6 matchs des jeux simples comme le double, il n'y a pas un set que je peux mettre à la poubelle. Ça a été pour ça une satisfaction en termes de prépa et d'engagement. Mais donc voilà, c'est un mélange qui fait que c'est le sport de haut niveau.
Alors il y en a qui disent que voilà, de jeux paralympiques en jeux paralympiques, le niveau augmente fortement. Est-ce que c'est ce que vous avez remarqué par rapport à Tokyo, ou vous avez aussi pris du niveau, mais pas que vous, les équipes adverses aussi?
Oui, c'est ça. En tout cas, nous, le parabadminton est rentré au jeu à Tokyo, et on a senti que certains pays, comme la Malaisie par exemple, ou même le Japon, qui sont déjà au top, se sont structurés davantage, ont gardé un héritage de Tokyo et de la préparation qui avait été faite à Tokyo. Donc tout le monde a progressé. Et oui, encore une fois, là, sur les 6 derniers mois, on a vu certains tournois où les cartes entre les vainqueurs se sont rebattues, et à chaque fois avec des surprises, et en voyant certaines paires progresser. Et donc, nous, aujourd'hui, de pouvoir les faire jeu égal avec eux, c'est une grosse satisfaction. Et on a 8 paires. Sur les 8 paires, toutes pouvaient aller chercher une médaille en étant à 100%, quoi.
Alors, comme match qui, moi, m'a impressionné aussi, c'est la médaille d'or de Charles Knox. Voilà, ça a été c'était quand même super impressionnant de le voir contre le Britannique. Je sais pas, ils sont tous les deux battus jusqu'au bout. On savait pas qui c'est qui allait gagner. Je sais pas, j'imagine que vous l'avez vu dans le sûr. Public, quoi. C'était comment l'ambiance de ce match?
Nous, on était très solidaires. Il y a eu un esprit d'équipe qui a été incroyable aussi au niveau du parabadminton. Les matchs clés comme ça, et puis bon, les finales, on était tous derrière lui. L'ambiance était incroyable, et puis ils ont, au-delà de la prestation physique badminton, ils se connaissent très très bien. Il y a très sincèrement beaucoup de respect entre ces deux joueurs.
Et oui, c'est ça, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, le Britannique perd, mais il sourit en même temps, et ça y est, il m'a bien vu celle-là.
Oui, il y avait ce premier set qui était la clé du match, hein, très clairement. Si le Britannique avait pu gagner ce premier set, je pense qu'il y aurait eu un autre combat psychologique. Mais je crois qu'il a compris en perdant ce premier set que derrière, Charles allait dérouler. C'est ce qui s'est passé. Le Britannique, personne ne l'attendait à ce niveau-là. Hein. Il y a quelques mois, il était plutôt... pas au fond du trou, mais il était en difficulté sur les tournois précédents, et il créait la surprise en demi-finale. Donc, pour Charles, c'était vraiment l'idéal, hein, ce match. Il connaissait très très bien l'anglais, et puis ce respect, et c'est également de l'amitié, de les voir comme ça tous les deux contents, parce que l'anglais était content de cette médaille d'argent qui était pour lui, je pense, une belle récompense de sa prépa, c'est sûr. Et puis Charles à la maison, de voir son copain Charles exploser comme ça à la maison, aller chercher la médaille d'or alors qu'il n'avait pas gagné un tournoi, hein, dans sa course au jeu. Donc c'était incroyable, et puis le public leur a bien rendu.
Est-ce que vous avez d'autres bons souvenirs comme ça de ces jeux de parabadminton à Paris?
Oui, forcément. Moi, j'ai plein d'images qui me viennent, mais j'en ai pas une en particulier. Mais c'est sur chaque phase en fait des jeux. Les jeux donc sur place ont duré 15 jours. Nous, un peu plus parce qu'il y a la première semaine. Mais ne serait-ce que quand on arrive dans le village, moi, la première. Euh, La première image que j'ai quand même quand je rentre, lorsque je suis appelé pour faire mon premier match officiel au jeu, on rentre sur le terrain, et puis pendant les 10 mètres qui nous amènent donc de la salle de préparation jusqu'au terrain, il y a 3000 personnes qui reprennent la Marseillaise. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un seul match, on n'a pas tapé un seul volant, et qu'il y a déjà une Marseillaise qui part dans les tribunes. Donc c'est énormément d'émotions. Là, on a pris l'ascenseur émotionnel, comme on dit, tous les jours. Et ça, c'était incroyable. Et puis, c'est pour ça qu'on vit. C'est pour vivre ces moments-là qu'on fait du sport et qu'on se prépare. Donc, voilà. Et puis, de voir toute ma famille dans les tribunes, forcément, c'était une fierté. Et puis, pour moi aussi, un moyen de récompenser aussi leur soutien au quotidien. Donc voilà, beaucoup de fierté et beaucoup d'images comme ça, de joie, quoi.
Alors je propose une deuxième petite pause musicale, et puis après on discute avec vous de vos prochains objectifs. Je vous le rappelle, on est toujours dans les studios avec David Toupé, de retour des Jeux de Paris. Alors maintenant que les Jeux de Paris sont finis, quels sont vos prochains objectifs ?
Alors pour le moment, je ne mets pas forcément d'objectifs sportifs, si ce n'est continuer de progresser et puis de rester dans une dynamique de haut niveau, c'est-à-dire que je dépose pas la raquette. Je savais pas avant d'aller, enfin, en allant à Paris, je savais pas trop dans quel état d'esprit j'allais sortir de ces Jeux. Ce que je disais tout à l'heure, en tel instant, c'est que ces Jeux ont donné beaucoup de sens à ce que je fais, à ce qu'on fait. Et aujourd'hui, arrêter comme ça, ça n'aurait pas de sens non plus. C'est-à-dire qu'on est compétitif, on a progressé, et puis moi j'ai envie de voir jusqu'où notre collaboration, notamment double, avec Tom Jacobs, peut aller, et jusqu'à quel niveau on peut atteindre.
Pourquoi ça a donné beaucoup de sens, ces Jeux?
Mais notamment parce que le reste du temps, l'année, quand on s'entraîne tout seul, quand c'est compliqué, moi le premier, je me pose des fois la question de pourquoi on est sur tel tournoi. Moi je suis souvent en déplacement, il y a quelques sacrifices quand même, hein, sur un plan personnel, et puis même physiquement parfois c'est pas facile de rebondir, et puis on n'est pas forcément le sport ou les catégories où on a énormément de public, là, le fait d'avoir un focus et d'avoir cette compétition, ça nous permet aussi, nous, de montrer de la performance avec un public incroyable. Mais on a pas beaucoup de compètes comme ça sur une paralympiade. Donc voilà. Et puis là, la barre, elle a été mise très, très haute. Donc c'est tout ça qui fait qu'on se dit, ben, ça vaut le coup. Parce que, encore une fois, humainement, ce que les gens nous ont renvoyé était incroyable.
Alors justement, il y en a qui disent qu'il y avait un avant et il y aura un après Paris sur les Jeux paralympiques. Est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez? C'est la première fois aussi qu'on a médiatisé autant en France les Jeux paralympiques, ce qui n'était pas du tout le cas les Jeux d'avant.
Oui, tout à fait. Là, clairement, il y a eu un message d'envoyer, ne serait-ce qu'avant même que les Jeux commencent, avec une équipe unique, avec les mêmes symboles. Donc il y avait vraiment une volonté de mettre en avant autant le parasport et les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques. Donc moi, je pense que là-dessus, c'est une vraie réussite. Évidemment, plus on va vers les prochaine paralympiade, olympiade, et puis on parle d'héritage à chaque fois, et là c'est ce qui est important. Donc ça a fonctionné, il y avait du monde dans les tribunes, il y avait de l'enthousiasme, il y avait les médias qui étaient présents. Je crois que en termes d'audience, je sais pas, j'y connais rien, mais ça donne l'impression en tout cas que tout le monde a bien répondu présent, et maintenant, ben, on a, voilà ce qu'on dit, hein, on a des braises, il va falloir par contre souffler dessus et rien lâcher non plus pour que y ait cette visibilité en fait, hein, qui est importante et qui permet de montrer au-delà du sport énormément de valeurs. Et puis voilà, c'est plus facile d'expliquer, de montrer en montrant quelques échanges de par badminton, d'expliquer que c'est possible de le faire, plutôt que de longs discours où c'est pas facile d'emporter les gens avec nous, quoi.
Alors justement, vous êtes un des pionniers, hein, du développement du para-badminton en France. Est-ce que vous avez l'impression que déjà il y a quelque chose d'un héritage qui va faire qu'il y a quelque chose qui va un peu s'accélérer en para-badminton? Est-ce que vous sentez quelque chose, un peu un changement de cet après-jeu, ou pas encore, il est trop tôt pour le dire?
Bah, je pense qu'il est un petit peu tôt. On a eu, je crois qu'on n'a pas forcément eu des signaux très très positifs dès que les jeux se sont arrêtés. Hein. Donc là, je crois qu'il faut que plein de choses se remettent en place. Évidemment, il y a eu des moyens importants pour les jeux. Donc là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller à ce niveau-là aussi. Et si on veut faire de l'inclusion réussie, ça passe par des moyens qui sont nécessaires. Hein. Donc, faut espérer que cette visibilité donne des vocations aussi pour accompagner le public handicap, qui a besoin d'une spécificité particulière. Nous, on a la chance au Parabenton d'avoir eu la tête d'affiche avec Charles, avec Lucas Mazur, Faustine Noël, qui ont ramené des médailles. Maintenant, ce sont des... On les voit jouer debout sur un terrain normal. Nous, la pratique fauteuil, elle est plutôt spécifique. Donc une personne en fauteuil qui s'identifie dans un sport va peut-être pas forcément penser tout de suite au para-badminton. Donc on a encore besoin de visibilité pour ça, pour faire du développement. Et en effet, on a eu un booster là, donc faut en profiter. Et puis il faut espérer que ça prenne encore et qu'on lâche pas la pression.
Et si j'ai bien compris, on vous attend pour Los Angeles avec Thomas Jacobs.
Ah ben enfin, on fera un focus dans 2 ans et puis on verra
voir,
si...
Il faut laisser un peu le temps.
Voilà, exactement, si l'aventure... Si on va sur une nouvelle aventure comme ça.
Ça marche, on laisse un peu le temps de la récupération, des vacances, du temps en famille.
Exactement, ouais, oui, c'est important.
Ben, merci en tout cas d'être venu dans l'émission de Résonance Sonore, de Retour au Jeu. Et encore, ben, bravo pour être arrivé là, à ce niveau, parmi les meilleurs mondiaux, hein, aux Jeux de Paris. Même si il n'y a pas eu une médaille, c'est quand même déjà une victoire et un beau parcours. Surtout de n'avoir rien lâché malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir sur les parcours sportifs. Je vous remercie. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.